Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 61e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'elles soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musicales et techniques. La dernière fois, nous parlions d'un style de métal très populaire dans les années 80, le glam metal, aussi appelé hair metal un peu péjorativement, car trop bling bling avec des permanentes par exemple, par notamment d'autres fans de métal plus lourd, plus rapide, plus agressif, le thrash metal. New wave tried to kill the metal, but they failed and they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. They failed as they were thrown to the ground. Le thrash naît dans la scène underground du début des années 80 et c'était incomparable aux autres sous-genres de metal, avec des paroles très explicites, violentes, à propos de souffrances humaines ou de serial killers. Des paroles écrites par des jeunes entourés de violence et qui s'y adonneraient sûrement eux aussi s'il n'y avait pas de loi et de police, mais qui gardent donc des fantasmes violents en tête. Et quand je dis ça, ça a l'air de faire peur, on dirait que je décris des monstres en puissance, mais soyez honnêtes, vous non plus, vous n'avez jamais eu des images violentes vous arrivez en tête quand vous êtes par exemple dans les bouchons et que les autres automobilistes font n'importe quoi, ou que votre voisin tape du marteau à 23h le soir et que vous lui enfonceriez bien dans la tronche. Bah c'est ça le thrash. C'est ça qui a parlé à beaucoup de gens. Cette violence interne qu'on peut tous avoir mais que l'on doit contenir car nous sommes des êtres civilisés. Le thrash metal, ça sert à faire sortir tout ça sans en faire de mal. Autant pour les artistes qui composeront la musique et écriront les paroles que pour le public devant lequel ils jouent, qui se défoulera devant la scène sous le son de ses grosses guitares. Et tout ça forme une communauté qui a les mêmes valeurs et préoccupations que soi. Et toute cette histoire ressemble un peu à celle du punk. Surtout le hardcore qui vient des US comme le thrash metal dont on parle, qui en fait descend du hardcore en partie. Comme le punk, le thrash est apparu sous Thatcher et Reagan qui étaient au pouvoir. Un sentiment de méfiance contre là où l'Occident nous menait et ce désarroi de la jeunesse. Les thrashheads ont fréquenté les concerts de Minor Threat et compagnie et ont adoré l'énergie et l'attitude. Mais dans le punk, c'est pas des grands musiciens, on n'essaye pas d'être virtuose, ce qui manquait un peu à ces jeunes métalleux. Ça, c'est plus de l'autre côté de la Manche qu'ils vont le trouver, avec la nouvelle vague de heavy metal britannique, Iron Maiden, Saxon, Def Leppard. Les jeunes métalleux de la côte ouest états-unienne trouvent cette maîtrise des instruments, en même temps que cette énergie agressive qu'ont les punks. Ils se mettent à monter donc des groupes eux-mêmes et tenter de jouer comme les Priest ou les Maiden, mais en enlevant le côté épique et en parlant à la place de tuer des gens. Mais il manque encore un élément bien caractéristique du thrash, parce que les gars n'ont pas juste fusionné le punk et le metal britannique, ce serait trop facile. Un élément très récurrent dans le thrash, c'est la double pédale de grosse caisse. Et ça, on en a déjà parlé, ça vient de Motorhead. Overkill, c'est le premier morceau à utiliser cette double pédale de la sorte. Mais je vous renvoie à l'épisode 48 si vous voulez connaître cette histoire. Bref, les jeunes métalleux californiens adorent ce son, ce bourdonnement constant. Avec le riff de guitare qui suit, ça casse la monotonie des rythmes que l'on pouvait avoir avant. Mais les Californiens jouent ça tellement vite que même Motorhead, quand ils entendent pour la première fois Metallica sur scène en 82, ils se disent que « putain, c'est quoi, ça va trop vite ». Metallica est considéré comme le premier groupe de thrash. Il est créé en 81 à Los Angeles par James Hetfield, le chanteur-guitariste, et Lars Ulrich, le batteur. Il demande au fondateur du label Metal Blade s'ils peuvent enregistrer une démo pour la prochaine compile Metal Massacre. Et il se retrouve bien dessus, même si Metallica est écrit avec un T en trop. Mais à l'époque, à LA, c'est le glam qui est populaire. Et on est soit dans un camp, soit dans l'autre. Metallica ne se sent pas très bien dans cette ville.
Show out no mercy this night. Attack those that know in their face.
Et il n'y a pas que, d'autres groupes comme Slayer et tous les fans de métal plus agressifs de la ville se sentent à part. Slayer met d'ailleurs du maquillage aussi, un peu pour se fondre dans la masse. Mais ce sont juste le tour des yeux peints en noir pour faire plus diabolique comme Ozzy Osbourne. Il y a une véritable rivalité entre le thrash et le glam. Le glam, ça représente tout ce contre quoi est le thrash. Metallica se met à jouer des concerts de temps en temps à San Francisco et se rend compte que le public là-bas est beaucoup plus réceptif. Ils décident donc d'y emménager en 83. La scène underground s'y développait déjà depuis les débuts des 80s, mais l'arrivée du groupe va faire exploser le thrash. Plein d'autres groupes natifs de San Francisco ou étant arrivés à cette période-là ont profité de cette vague insufflée par Metallica. Slayer aussi montera à San Francisco, mais devra retirer son maquillage pour jouer aux côtés d'Exodus et consorts. Et d'ailleurs, je faisais le parallèle avec le punk un peu avant, mais justement, la scène thrash côtoie beaucoup la scène punk de l'époque. Et on voit la plupart du temps des line-up de concerts mêlant des groupes des deux genres. Souvent décrits par les organisateurs eux-mêmes comme des événements interculturels, ces concerts de thrash, c'est un peu là où les métalleux ont découvert les joies des mosh pits. Ces genres de gros pogo qui ressemblaient plus à des rumbles généraux de catch. Et le stage diving, ou en français bain de foule, ceux où on se jette depuis la scène dans le public pour qu'ils nous portent. Bref, la scène est florissante et attire de plus en plus de fans qui découvrent les groupes par les compiles et les magazines, en particulier Metal Forces, qui a une page intitulée Penbangers, contraction de Penpal, et Headbangers, en gros correspondants épistolaires et fans de métal. J'en peux plus du français, on peut pas traduire correctement. Littéralement, ce seraient les potes de stylo et les gens qui bougent la tête. Bref, une page de correspondance pour les métalleux qui peuvent s'envoyer des disques ou des cassettes par la poste en trouvant via cette page les noms, adresses et goûts musicaux de potentiels copains de plumes à qui faire découvrir ses groupes favoris. T'as ce qu'on devait pas faire avant Internet. Au début des 80s, beaucoup de groupes ont sorti des disques en indep et la scène commence à s'exporter au-delà de la baie de San Francisco. En 84, Metallica, Anthrax et Raven jouent à New York dans la salle du Roseland, sortant le thrash de l'underground et le rendant visible pour les majors. À l'issue de ce grand show, sûrement le plus grand que ces groupes aient joué avant ça, Metallica signe avec Elektra et Raven part chez Atlantic. Anthrax, lui, reste encore chez Metal Forces, mais ils ont été repérés et ce n'est qu'une histoire de quelques mois avant qu'ils signent eux aussi sur un gros label. Comme Slayer profitent eux aussi de ce coup de projecteur et signent également un changement de vie pour eux. Ils ont des tourbus, dorment dans des hôtels sympas et plus des hôtels où on loue la chambre à l'heure. Et ils s'habillent toujours avec des vieux jeans troués et des t-shirts tachés, mais au moins, ils ont de nouvelles Nike flambant neuves. Les groupes tournent autour du monde, créent le son qui définira le genre et un album sort. Un qui sera considéré comme le chef-d'œuvre du thrash, celui qui a révolutionné le son du genre. Rain in Blood, The Slayer, bien sûr. message de cet album casse tout ce qu'on faisait avant. On n'essaye plus de créer un truc ambiant avec des réverbérations en mettant des éléments sur les côtés. Non, là, tout est dans notre face et violemment, l'auditeur devient juste le punching ball du groupe. Et quand tout ça a marché, tous les labels voulaient leur groupe de thrash. Et on a vu une vague de nouveaux groupes bien produits arriver. Le thrash emportait tout sur son passage. C'était devenu le sous-genre grandissant le plus rapidement du métal. C'était international et les clips tournaient en boucle sur MTV. Et le must des tournées à suivre à l'époque, c'est le Clash of the Titans avec Megadeth, Anthrax ou encore Slayer, annonçant la transition à venir dans la musique hard à l'aube de ces années 90, puisque la première partie était les futures superstars du grunge, Alice in Chains. Bref, le Clash of the Titans a été l'apogée, mais aussi la chute du thrash, paradoxalement. Il sera ensuite remplacé par le grunge, donc. Mais ça, on le garde pour plus tard. Le thrash n'est pas mort pour autant, c'est resté l'un des sous-genres de métal qui a su perdurer dans le temps et compte encore une scène très active à l'heure actuelle. Et Subculture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 14h, le samedi 11h et le dimanche 21h sur Radio FM+, 91 MHZ bien sûr, canal 9C du DAB+, Montpellier local ou sur le site radiofmplus.org via l'onglet Écoutez le direct. Retrouvez également tous les épisodes précédents et celui-ci toujours sur radiofmplus.org en podcast, en écoute et téléchargement gratuit à la demande. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et rock on!
Like the Pied Piper, let me